Bon, alors ce matin, comme c'est les vacances, on va aller un peu se promener en Écosse. Bon, voilà, comme c'est l'été, je me suis permis de faire un message un peu différent. Donc, on va pas mal parler de mes vacances en Écosse, en fait. Donc, pour les enfants, j'ai essayé de mettre pas mal de photos pour pas que ça soit trop long. Puis, je vais raconter un peu mes vacances en Écosse, tout ça. Donc voilà, j'espère que ça va être un petit peu frais. Bon voilà, il n'y aura pas forcément de nouveautés théologiques ce matin, mais on va parler de cinq leçons que j'ai qui me sont venues quand je suis parti en vacances en Écosse. Voilà, donc c'est des choses qui me sont arrivées, des histoires qui me sont arrivées. Et donc voilà, je suis parti une semaine avec Mathias, mon frère, et puis Samuel, le fils de Sylvain, que vous connaissez. Donc là, j'ai mis un petit panneau, attention aux moutons, parce que là-bas, sur les routes, il y a des moutons partout, il y a des moutons qui s'échappent, il faut faire attention. Mais vraiment, pendant ces vacances, le Seigneur m'a montré les choses. Et donc voilà, je vais essayer d'illustrer un peu avec pas mal de photos. Bon, je vais vous donner mes cinq leçons telles quelles. Et puis, bon, je vais vous expliquer petit à petit mes histoires qui me sont arrivées. Donc, se nourrir pour ne pas tomber en panne, persévère pour demeurer au bon endroit, ne pas croire que tu n'es plus qu'une ruine. Donc, hein, en Écosse, il y a beaucoup de châteaux. Le berger fera tout pour retrouver sa brebis. J'ai dit qu'il y avait pas mal de moutons. Et la météo du ciel est miraculeuse. Donc voilà, je vais expliquer un peu plus de quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, alors, se nourrir pour ne pas tomber en panne. Donc, ça faisait quelques jours déjà qu'on était en Écosse. Et on a fait pas mal de grosses journées. On a fait un sommet le jour d'avant. On avait fait 5 heures de route aussi le jour avant le Ben Nevis. Donc ça, c'est la montagne du Ben Nevis. C'est un sommet, bah, c'est le plus haut sommet d'Écosse en fait, à 1345 mètres. Donc ça fait pas forcément très haut hein, par rapport aux montagnes des Alpes que nous, on connaît bien parce qu'on n'est pas loin. Mais en fait, pour la randonnée, on part du niveau de la mer. Donc là, derrière, vous voyez un lac. Et y a des, en fait, on part de 0 mètre du niveau de la mer, en fait. Donc ils disent quand même que la marche est annoncée pour 8 heures de temps. Donc c'est quand même une marche assez sympathique. Et en fait, le soir d'avant de partir pour cette montagne, Samuel dit, bon, ben, nos réserves de nourriture sont assez critiques, donc on va partir, on est allé au Aldi de là-bas, du coin de Fort William, et on prend de la nourriture pour le pique-nique du soir. Donc voilà, on a repris de quoi faire un pique-nique, et le lendemain, on est parti très tôt, je ne sais plus, à 6 heures du matin ou quelque chose comme ça. Mais pour le petit déjeuner, on n'avait pas eu grand-chose, on n'avait pas eu assez à manger. Et arrivé aux trois quarts du parcours, donc on va dire c'est des chemins comme ça, assez avec pas mal de virages et de cailloux. Et arrivé aux trois quarts du parcours, j'ai senti que j'avais vraiment, vraiment faim, mais vraiment. Et 30 minutes après, il restait plus beaucoup à atteindre pour arriver en haut. Mais là, j'étais vraiment, vraiment mal. J'avais une fringale. Donc, une fringale, ceux qui font un peu de sport, ils peuvent savoir, en fait, c'est une baisse du taux de sucre dans le sang. Et du coup, d'un coup, on n'a vraiment plus de force. Et on sent des vertiges, des étourdissements, on ne se sent pas bien, tout ça. Et moi, j'étais vraiment pas bien et j'ai dû m'arrêter 5 minutes sur un caillou. J'arrivais plus à marcher et puis j'ai dû repartir, mais vraiment tout doucement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais négligé de manger assez au petit déjeuner. Voilà, on n'avait plus trop de réserves. En même temps, enfin, on n'avait plus rien à manger, donc on a mal prévu notre coup. Mais cette situation vraiment m'a beaucoup parlé du besoin de manger régulièrement. Notre organisme a besoin de manger de manière physique, mais aussi de manière spirituelle, bien sûr. J'ai lu un article aussi sur les fringales, hein, donc c'est quand le taux de sucre baisse très vite dans l'organisme, dans le sang. Il peut arriver aussi pour des raisons psychologiques. Donc, c'est-à-dire que pour une raison psychologique, votre taux de sucre dans le sang va baisser. Assez incroyable. Donc, des choses psychologiques peuvent influer aussi sur le physique. Mais cette expérience m'a beaucoup parlé du fait d'être nourri par Jésus. Et c'est vraiment vrai aussi dans ces temps d'été, dans le quotidien. Jésus, il nous dit à plusieurs reprises qu'il est le pain de vie. Dans Jean 6, verset 35, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et dans ce passage de Jean, il est dit trois fois, au verset 35, au verset 48, au verset 51, que Jésus est le pain de vie. Et en fait, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie ». Voilà, le verset s'affiche en plus. Quand on est en fringale en montagne, le danger physique est assez important parce qu'on peut tomber, on peut, s'il n'y a pas forcément toujours des précipices, mais admettons, on perd l'équilibre, on peut tomber dans un précipice, il faut quand même être vigilant, il y a des gros cailloux au sol, tout ça, vous connaissez pour ceux qui sont allés dans les Alpes aussi. On peut vraiment se faire mal si on n'a pas mangé assez. On pourrait se taper, admettons, s'énuquer ou comme ça, mais ce danger est moins important qu'une fringale spirituelle. Une fringale spirituelle, si vous n'avez pas mangé assez, si vous n'avez pas mangé assez de Jésus, c'est un peu imagé, hein, mais si vous n'avez pas assez mangé de la relation avec le Seigneur, la fringale spirituelle nous ferait prendre ce même genre de risque, de tomber. Le risque de tomber, de s'éloigner de Jésus, qui est la vraie source de vie, de péché. Donc voilà, ça peut être la fringale spirituelle est d'autant plus dangereuse. Et c'est vrai que l'été, on est parfois débordé, donc il y a des choses vraiment toujours très importantes à faire, le barbecue chez le voisin, toujours plein de sollicitations. Et on serait tenté de laisser notre Bible de côté, mais on ne se rend toujours pas forcément compte. Et voilà, dans Jean 4 aussi, alors on a vu Jésus le pain de vie, mais dans Jean 4 on nous parle aussi, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc nous on voit bien ce que ça veut dire, parce qu'on a eu la canicule il y a une semaine, donc on a vu qu'il fallait bien boire, bien s'hydrater. Et Jean nous dit, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc Jésus est le pain de vie, mais il est aussi celui qui nous donne de l'eau, et cette eau deviendra une source d'eau. Donc c'est une merveilleuse promesse, Jésus nous donne de l'eau qui fera naître une source à l'intérieur pour que nous puissions donner de l'eau aussi aux autres. Et voilà, vérifions pendant l'été, mais aussi le reste du temps, que c'est la source qui est en nous, que Jésus peut mettre en nous, est vraiment alimentée, que la source ne s'arrête pas quand c'est la canicule spirituelle aussi. Voilà, donc ça c'est la première histoire qui m'est arrivée. Donc, se nourrir pour ne pas tomber en panne sur la montagne ou pendant vos randonnées. Donc, la deuxième chose qui m'est arrivée, c'est persévère pour demeurer au bon endroit. Donc après justement cette journée du Bénévis où on a fait cette randonnée, on est reparti de cette région et puis on est parti dans la vallée de Glencoe. Alors c'est cette route-là qui est entourée de montagnes majestueuses. Et là j'ai mis notre voiture parce qu'il faisait tellement chaud. J'ai mis notre voiture au bord de la route parce qu'on s'est arrêté, mais Samuel et Mathias avaient tellement chaud qu'ils sont restés dans la voiture, puis il n'y a que moi qui sortais pour prendre des photos. Voilà. Et en fait, donc on a fait cette route en repartant, on cherchait un endroit en fait pour camper, parce qu'on plantait la tente en camping sauvage. Voilà. Et en fait, depuis le début de nos quelques jours, on avait remarqué que pour le camping sauvage, c'était quand même pas mal d'avoir une table de pique-nique. C'était quand même pratique pour poser le réchaud, tout ça. Je sais plus si j'ai mis en photo, non, c'est pas là. Bref, ça doit être là, je crois. Voilà. Donc là, c'est notre table de pique-nique, voilà, avec le réchaud qu'on avait mis. Voilà, c'était toujours pratique. Puis là, on essayait de monter la tente. Voilà. Et donc, en fait, ce jour-là, il faisait très très chaud. Et on a trouvé un premier endroit, mais il n'était pas du tout tondu. Il y avait des herbes hautes comme ça, puis il n'y avait pas vraiment de place de parking. Donc, ça n'allait pas. Donc, on repart et on va à un deuxième endroit. Donc là, le deuxième endroit, c'était au bord d'un lac. C'était super sympa, mais il faisait très très chaud. Il faisait vraiment chaud, chaud, chaud. Et l'inconvénient en fait avec le lac, c'est quand il fait chaud, chaud, chaud au bord des lacs, il y a des moustiques. Les moustiques, c'est les midges écossais. Et les midges écossais, ils attaquent en essaim. Donc, ils vous trouvent et ils vous mangent, quoi. Voilà, donc ça n'allait pas. On a commencé à monter les affaires, puis finalement, on a dû tout remballer. Donc, ça n'allait pas. Et petit à petit, donc, les kilomètres s'enchaînaient. Mais là, on commençait à devenir dépité, on était fatigué, tout ça. Et on s'est dit, bon, ben, on va remettre la mission au Seigneur. On va prier pour trouver un bon endroit. Alors, pour le Seigneur, il n'y a pas de petites choses. On peut se confier à lui pour toutes choses. Et Mathias, mon frère, me dit à un moment, ah, prends cette route. Et ce n'était pas sur le chemin vers lequel on rentrait, parce qu'on rentrait direction Édimbourg. On prend cette route, on trouve un village, toujours pas de possibilité à aucun endroit. À la sortie du village, on continue vraiment épuisé. On trouve une petite route qui nous mène à un super endroit. Donc, on arrive en fait à cet endroit-là que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a trouvé un endroit à l'écart, avec une table de pique-nique, avec de l'ombre, avec une super vue. On a même vu des cerfs, tout ça. Je vais vous montrer après. Il n'y avait pas de moustiques à cet endroit-là. On était aussi en face d'une maison traditionnelle. Vraiment, tous les points positifs étaient là. J'ai mis ici, donc on voit les cerfs hein, qu'on voyait depuis notre campement, donc c'était vraiment sympa. En Écosse, il y a pas mal de cerfs. Et là, on voit la maison, c'est les maisons traditionnelles d'Écosse. En fait, c'est un peu comme chez nous, les maisons comtoises. Il y a une partie où on habite et puis à côté, il y a le corps de ferme où il y a les animaux, tout ça. Donc c'était assez sympathique. Puis ils mettent de la chaux blanche comme ça sur les murs. Et ce verset de Psaume 71, 71, Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Le Seigneur, je pense, est vraiment celui qui prend soin de nous dans les détails. Dans ce moment-là, on s'est vraiment senti, en tout cas, porté. On a vraiment trouvé le Seigneur comme un rocher pour nous. Le Seigneur veut prendre soin de nous. Et le Seigneur veut que nous demeurions au bon endroit. Donc, là, c'était juste pour camper, entre guillemets. Mais demeurer au bon endroit, c'est quelque chose de vraiment important. C'est une notion qui est importante aussi dans la Bible. Dans Jean 15, au verset 4, le verset nous dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Donc demeurer, c'est une notion qui est vraiment importante dans la Bible. Et parfois, nous cherchons où aller. Là, c'était en Écosse, on cherchait un endroit pour camper. Mais dans la vie, des fois, on cherche où aller. On cherche cet endroit pour dormir, pour se reposer, pour poser la tente. Et je pense que nous devons se rappeler de ce principe. de demeurer au bon endroit. Demande au Seigneur pour demeurer à l'endroit idéal pour camper, mais aussi dans ta vie, pour habiter, pour travailler, pour toutes ces choses-là. Dans 2 Jean, on nous parle encore de la notion de demeurer. Et donc, dans la traduction Martin, on dit « Quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ ne lui demeure point fidèle, n'a point Dieu. Celui qui demeure en la doctrine de Christ a le Père et le Fils. » Donc, ce verset insiste sur le fait de demeurer dans la doctrine de Jésus pour avoir le Père et le Fils. C'est-à-dire d'avoir l'Évangile, le message de l'Évangile dans son entièreté. Donc, celui qui demeure en la doctrine du Christ a le Père et le Fils. Donc, ça veut juste dire, celui qui ôte Jésus à sa doctrine n'a pas forcément Dieu. Il y a souvent vraiment ce parallèle dans le Nouveau Testament, aussi avec les paraboles, qui nous montrent qu'il faut demeurer spirituellement dans le Seigneur. Premièrement, demeurer dans le Seigneur. Et ensuite, toute chose découle, toute bénédiction nous sont données en plus, y compris aussi, demeurer physiquement dans un endroit, trouver le bon endroit pour poser sa tente. Voilà, donc la deuxième histoire qui m'est arrivée, donc on a trouvé vraiment cet endroit, on a vraiment été bénis, on a pris plein de photos des serres, tout ça, c'était vraiment sympathique. Alors, troisième histoire qui m'est arrivée quand je suis parti en Écosse, donc c'est ne pas croire que tu n'es plus qu'une ruine. On avait repéré ce château sur le guide du Routard. Et, c'est pas difficile, c'est le château le plus connu. C'est le premier, il était sur la couverture du Routard. Et il est sur un petit îlot comme ça, puis il y a un petit passage comme ça, et puis juste c'est la berge juste à côté. Puis après, il y a un grand parking avec tous les cars de touristes, les Chinois, les Russes, les... voilà, donc il y a pas mal de monde. Il y a beaucoup de Français en Écosse aussi, les Français aiment bien partir en vacances en Écosse. Le fait que ça soit sauvage, tout ça, on a rencontré énormément de Français, c'était assez incroyable. Et... sur le moment, on avait un peu hésité quand même d'aller visiter ce château, parce qu'il était vraiment à l'écart des grands axes. Il fallait ajouter 3 heures de route juste pour le visiter, puis on était fatigués, tout ça. Et finalement, on est quand même allé, mais ce château, c'est le plus fameux ou un des plus fameux d'Écosse. Il est mondialement connu, il est sur tous les calendriers, il est assez photogénique, vous avez une nuée de personnes qui prennent des photos. Bon, là, il faisait un peu gris, donc on ne voit pas forcément bien, mais il y a le drapeau écossais aussi, juste là. Il est utilisé aussi dans les films, dans les séries, il est très, très régulièrement dans pas mal de films. On l'a visité, et puis à l'intérieur, justement, il montre des scènes des différents films. Et ce qui m'a vraiment frappé dans ce château, c'est qu'il a été une ruine jusqu'à 1911. Donc on voit ce qu'il était avant. Donc là, c'est envahi par la végétation, donc on ne voit pas très bien parce que c'est en noir et blanc, mais voilà. Il restait vraiment plus grand-chose. Là, j'ai une autre photo aussi. C'est peut-être à peine mieux de ce côté-là, ce n'était pas encore totalement détruit. Mais jusqu'à 1911, il n'y avait plus rien, quoi. Et donc, il y a quelqu'un qui l'a racheté, il s'appelle Monsieur Lieutenant-Colonel John McRae Gilstrap. Donc pour le nom complet, non, ça m'a fait juste rire. Mais ce gars-là, il a racheté le château, qui était rien du tout, qui était vraiment... On pouvait pas voir que ça allait être un beau château ici. Il y avait et des châteaux en ruine en Écosse, il y en a encore plein, et on a plein partout, et ils sont pas forcément refaits tous. Mais ce gars-là, il a donné 21 années pour construire. Les 21 années après 1911, il a reconstruit entièrement le château. Qu'il est parti vraiment de rien du tout. Et c'est vraiment une leçon de courage. Nous, ici, pour l'Église, on n'a pas mis 21 ans, on a mis déjà 2 ans. C'était lourd. Mais il a mis 21 ans pour retaper le château. Et maintenant... Voilà, j'ai mis la photo comment il est hein, maintenant, une photo d'artiste, parce que moi, bon, voilà. J'ai mis la photo d'artiste de comme il est maintenant. Et c'est vraiment un château maintenant qui vaut le détour. Et cette histoire nous rappelle vraiment qu'il ne faut jamais nous considérer nous-mêmes comme des ruines ou comme des moins que rien. Ce château, il était insignifiant, il était rien du tout, mais rien n'était perdu. Il a été restauré pour devenir vraiment un des plus beaux châteaux du monde. Pour moi, en tout cas. C'est devenu un château vraiment où il y a des milliers de touristes qui viennent pour visiter ce lieu magnifique. Et la Bible nous dit également que nous ne sommes pas des ruines. Nous faisons partie du peuple du Seigneur. Dans 1 Pierre, on nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Voilà, donc on est loin d'être des ruines, les amis. Nous pouvons aussi être restaurés entièrement. Donc là, c'est le verset que j'ai mis, c'est dans Malachie 4. « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Je trouve ça magnifique. J'aime ce verset qui dit que pour nous, le soleil de la justice se relèvera et la guérison sera sous ses ailes. C'est une belle promesse, un message très fort sur lequel on doit s'appuyer quand on va moins bien. On va moins bien, il faut vraiment se rappeler de ça. La guérison est sous les ailes du Seigneur. Un autre verset aussi nous parle de la récompense à venir et nous invite aussi à ne pas se considérer comme des ruines. Dans Ésaïe 61, Ésaïe 61, verset 7, Summer. « Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur, et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez, car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. » Il y aura pour vous une joie éternelle. Donc là, c'est le bonheur à venir. Ayons des fois aussi la vision de ce qui se passera ensuite. Et vraiment qu'on poussera des cris de joie à cause de la part qu'on aura eue. Voilà, vraiment une bonne nouvelle. Et ce château, vraiment, m'a vraiment... quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas le même endroit. Et quand on voit vraiment ce qu'il est devenu, voilà, c'est beau. Donc ayons pour nous aussi, pour nos vies, des fois on se dit qu'on est là, on se dit que, waouh, il y a du travail. Mais voilà, ayons vraiment aussi l'objectif d'appartenir au Seigneur et de se laisser restaurer, de prendre ce temps pour se restaurer. La quatrième histoire, c'est une histoire que j'ai déjà peut-être un peu racontée à certains d'entre vous, c'est que le berger fera tout pour retrouver sa brebis. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu, donc ceux qui l'ont déjà entendu, voilà, je m'excuse. Pour cette montagne, on est parti très tôt le matin, à 5h du matin, et au bas de la montagne, il y avait un enclos à moutons vraiment immense avec des portes qui se ferment en métal. Donc les barrières, elles faisaient 2 mètres de haut. Et puis voilà, ils ne font pas ça à la mesure française. C'est vraiment un grand enclos. On a mis par exemple 20 minutes pour traverser l'enclos des moutons. Donc il était vraiment grand avec des grandes portes en métal qu'il faut bien refermer après. Et donc nous, on a fait justement bien attention de refermer correctement pour pas que les moutons s'échappent. Voilà, on est monté au sommet de cette montagne. Donc là, on voit depuis le sommet qui s'appelle le Chialion, à 1083 mètres. Et donc c'est une montagne qui est au centre de l'Écosse. On a une vue assez sympa à 360 degrés. C'était vraiment beau. Et voilà, on a mangé au sommet, on est resté un peu. Et puis après, on est redescendu un tout petit peu et on a vu le Lagopède alpin, juste ici. Donc le Lagopède alpin, c'est comme un petit tétra, un peu, voilà, c'est un petit animal. qui dans les Alpes, il vit au-dessus de 3000 mètres, donc assez haut. Et c'est voilà, c'est un animal un peu polaire, quoi, si on peut dire comme ça. Et donc l'été chez nous dans les Alpes, il a très très chaud, donc il remonte chaque année un peu plus haut pour être dans les zones où il a pas trop chaud. Et donc il est très menacé dans les Alpes, mais en Écosse il y en a pas mal et puis on peut voir facilement. Mais c'est vraiment un animal qui est polaire et qui est vraiment fait pour être dans les basses températures, quoi. Donc on est redescendu, on a vu ce lagopède alpin, et après, juste après, on a vu ces deux moutons ici. Mais là, on est au sommet de la montagne, hein, on voit derrière, j'ai réussi à les prendre en photo depuis tout près. On a vu ces deux moutons, donc quasiment au sommet, et on s'est vraiment dit, mais qu'est-ce qu'ils font ici, quoi? Ils doivent être tout en bas de la montagne. On s'est questionné, et puis bon, après, on est reparti. Et en redescendant, on voit un berger qui monte avec son bâton, son chien, et puis il regardait comme ça le long des falaises, mais le pauvre berger, il n'y était pas du tout, hein. Les moutons étaient bien plus haut, encore au moins une demi-heure, trois quarts d'heure de marche facilement. Donc il n'y était pas du tout, donc voilà, on lui a juste dit qu'ils étaient plus hauts, qu'il fallait qu'ils continuent de marcher, puis voilà quoi. Le pauvre, il était déjà en transpiration, il était au bout de sa vie, mais voilà. On lui a dit qu'il fallait qu'il continue à monter quasiment jusqu'au sommet pour retrouver ses deux moutons. Donc ouais, les moutons, ils ont fait un parcours de plusieurs heures pour s'éloigner à l'endroit où ils étaient là, et c'est quasiment l'endroit le plus haut qu'ils pouvaient monter, quoi. C'était incroyable, ils ont fait, je sais pas moi, peut-être 3 ou 4 heures pour arriver là, à se promener. Ouais, il y avait des itinéraires plus faciles, mais ils sont partis vers le haut, incroyable. C'était peut-être des moutons montagnards, je ne sais pas. Mais là aussi, la Bible nous parle du berger. Dans Jean 10, on nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Donc là, ils ont été un peu dispersés, ceux-là. Je vais pas m'allonger forcément sur cette notion parce qu'on en a souvent parlé. Mais on a vraiment la chance de connaître le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Nous appartenons au berger du ciel. Et voilà, il est le bon berger qui peut donner sa vie pour nous. Et ces moutons, ils ont beau être montés le plus haut possible quasiment, ils ont beau y faire des heures de promenade pour se retrouver ici. Le berger est allé les chercher. Il n'a pas abandonné. Il n'est pas venu vers nous, puis dire, ah ben non, ben ils sont trop haut, je vais les laisser, puis tant pis. Non, il était au bout de sa vie, mais il a quand même continué à marcher pour atteindre quasiment le sommet de la montagne. Le Seigneur n'est vraiment pas ce mercenaire ou un gourou qui nous lâchera au premier risque. Nous lui appartenons. Et le Seigneur est capable de nous chercher à l'endroit le plus reculé. Là, c'est le milieu de l'Écosse, en sommet d'une montagne, c'est déjà assez reculé, mais le Seigneur est capable de venir nous rechercher dans la montagne la plus éloignée. Et ça, c'est vraiment super, c'est une bonne nouvelle encore, qui m'a, ouais, qui, cette histoire m'a vraiment rappelé ça, que le Seigneur est ce berger qui vient nous chercher, peu importe où nous sommes, peu importe si nous sommes loin. Et il veut faire ça aussi pour vos amis. Il veut venir les rechercher de où ils sont. Ah ben là, on voit encore le mouton au sommet, puis là, c'était le groupe de moutons en bas. Voilà, dans son enclos. Donc là, c'est voilà, le verset qui nous dit que le Seigneur est le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et voilà, c'est cette bonne nouvelle, vraiment. Là, j'ai mis cette photo d'un endroit qui s'appelle King's View, donc l'endroit de la vue de la reine, en fait. Puis on a vu sur un lac qui est magnifique. Et c'était assez incroyable de voir comme elles sont vertes, ces herbes-là. Et je me suis dit, le Seigneur veut vraiment nous poser dans ce type de pâture des fois. À certains moments de notre vie, il veut nous poser dans ce type de pâture, particulièrement quand on a besoin d'être restauré. Mais quand on voit comme l'herbe est verte, elle est presque fluo, quoi. J'ai trouvé ça magnifique et voilà, je pense que le Seigneur veut aussi parfois nous faire reposer dans ce type d'endroit, avec de l'eau fraîche et de l'herbe, voilà, bien, bien grasse. La dernière leçon, donc le dernier point qui me reste, je ne vais pas être très très long, mais c'est la météo du ciel est miraculeuse. Donc, on a eu une météo en Écosse, c'était incroyable. J'étais déjà allé d'autres fois en Écosse avant, et là, on a eu une météo de pays tropical. Il a fait jusqu'à 32 degrés, et ici, bon, c'est pas forcément beaucoup, mais en Écosse, c'est vraiment beaucoup. Et il y a une humidité de l'air assez importante, donc du coup, ça fait un peu comme dans les pays tropicaux. Moi, je suis pas allé, mais c'est mon papa qui me disait, quand il est sorti de l'avion à Manille, aux Philippines, il a cru qu'il allait remonter dans l'avion. Non, mais quand il est allé à Lausanne 2 à Manille, il m'a dit, c'était absolument terrible, cette chaleur humide. Moi, je sais un petit peu à quoi ça correspond depuis que je suis allé en Écosse, parce qu'il faisait 32 degrés, mais c'était vraiment... c'était un four, quoi. Et ouais, c'est cette humidité dans l'air qui est assez terrible. Et donc là, j'ai mis en photo, c'est le premier jour où on a campé, on s'est mis carrément au bord de l'eau, puis on s'est à moitié baigné, c'était vraiment sympathique. Mais il faisait chaud, mais chaud, on s'est pris des coups de soleil le premier jour, on mettait de la crème solaire toutes les deux heures, mais ça suffisait presque pas. Voilà, donc on était obligé de remettre les longues manches et tout. Là, c'est la route qui repartait après de Fort William. Et sur cette route, il faisait tellement chaud, on devait mettre la clim quasiment à fond, alors que c'était pas non plus 40 degrés, mais on a dû remettre la clim quasiment au maximum de la puissance. Voilà, tellement il faisait chaud. Bon, voilà, ça a été vraiment assez incroyable, parce que normalement, l'Écosse, c'est 20 degrés quand tu as de la chance, c'est deux averses par jour. Il y a même un dicton écossais qui dit qu'une journée sans pluie, c'est une journée de perdu. Donc, je ne sais pas si c'est pour eux, si c'est bénéfique, si c'est bien d'avoir de la pluie, je ne sais pas. Mais... Voilà, en tout cas, en Écosse, c'est un temps très changeant. Il y a souvent, vous levez comme ça, puis deux heures après, vous prenez de la pluie à fond. Ou d'un coup, il faisait beau, vous êtes au sommet de la montagne, et puis il y a le brouillard qui vient et qui enveloppe tout, et puis vous ne savez plus où vous êtes. Donc, ils disent vraiment, dans tous les centres touristiques, ils disent vraiment, faites attention à la prévision météo. S'il y a du brouillard qui risque d'arriver, il faut absolument avoir une carte, parce que sinon, vous vous retrouvez dans un endroit, et vous ne voyez plus à 50 mètres, puis vous ne pouvez plus vous retrouver. C'est pour ça aussi que sur les sentiers de randonnée en Écosse, il y a beaucoup de cairns, là, les tas de pierres. Ils essayent de les mettre à intervalles réguliers pour ne pas se perdre par rapport au brouillard. Parce que voilà, c'est assez courant. Et donc nous, pendant tout notre voyage, pendant les une semaine en Écosse, on a eu juste deux gouttes sur notre pare-brise. Pendant 5 minutes, il y a eu deux gouttes et après, c'est parti. Voilà, on a eu 5 jours à plus de 30 degrés. Dès qu'on allumait la radio aussi, ça nous faisait rire, parce que dès qu'on allumait la radio anglaise, il disait « glorious weather », le temps vraiment glorieux. Il parlait même aussi à un moment d'un jeu où on pouvait gagner de l'argent à la radio. Et il disait « bon, bah, avec cet argent, vous pouvez partir en vacances en Espagne, ou mieux que ça, rester ici en Écosse ». Et profiter de la météo incroyable. Ils étaient vraiment, dès qu'on allumait la radio, ils répétaient sans cesse le fait qu'ils étaient vraiment super chauds. J'ai trouvé ce verset dans Jérémie qui me parle de ça. Dans Jérémie 32, verset 26, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? Pour moi, ça m'a vraiment parlé. du fait de s'attendre au Seigneur. Et ce verset nous invite à ne pas nous étonner de ce que le Seigneur peut faire dans nos vies. Je pense que nous devons vraiment garder cette envie de s'attendre au Seigneur, car tout est à sa mesure et à sa portée. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? C'est vrai que nous, comme on était en camping sauvage, on aurait eu une semaine de pluie. Ça aurait pas été la même pour nous. Hein. On aurait dormi sous tente avec le sac de couchage mouillé, déplié la tente mouillée, tout ça, ça aurait pas été la même semaine. Et vraiment ne pas oublier qui est notre papa du ciel. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? Après, voilà, la météo, elle était super, on a passé des super vacances. Après, il y a aussi le réchauffement, voilà, donc c'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle en soi qu'il fasse si chaud qu'en Écosse, mais c'est juste pour dire que voilà, notre semaine a été bénie, et vraiment, on s'attendait pas à ça, et vraiment, voilà, de quoi ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur d'avoir aussi, de pouvoir s'attendre à ces surprises ? Et voilà, rien n'est impossible à celui qui nous a envoyé. Voilà. Et pour finir, j'ai un verset de Amos que je vais lire. Et c'est un verset que j'aime particulièrement. Il avait été utilisé il y a déjà longtemps, maintenant presque 10 ans, je pense, dans l'introduction de la The Rencontre, donc c'est la rencontre à Mulhouse des jeunes, là où il y a au moins 2000 jeunes ou comme ça, et ils avaient fait la vidéo d'ouverture de cette rencontre de 3 jours. Ils avaient mis des sons, des effets spéciaux et lumineux, c'était assez impressionnant. Donc je vais vous lire ce dernier verset pour conclure, mais ce verset nous parle de l'identité de notre Papa du Ciel. Et voilà, c'est ce que j'ai appris pendant ce voyage en Écosse. Cinq petites histoires ou comme ça. Mais c'est des histoires qui nous parlent, qui me parlent en tout cas, de l'identité de notre Papa du Ciel. Je ne sais plus si je l'avais mis ou pas. Non, je ne l'avais pas mis. Je vais mettre... Voilà. Donc c'est dans Amos 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël, car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Voilà, donc n'oublions pas vraiment la force du Seigneur dans nos situations. Je vais peut-être le relire une dernière fois. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël, car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent, qui a fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Voilà, donc c'est vraiment... pour moi, ce que j'ai vécu en Écosse, c'est quand je vois aussi cette photo, j'ai mis cette photo parce que je trouvais vraiment magnifique. C'est voilà, quand on lit dans ce verset, il marche sur les hauteurs de la terre. Alors, je sais pas, voilà, on peut des fois avoir des visions comme ça, mais on voit ce beau paysage avec ce lac, ces fleurs ici. Ça, quand j'ai vraiment vu cet endroit, j'ai remercié le Seigneur pour. Voilà, pour toute sa création, pour toutes ces choses. Et la Bible nous parle vraiment que la création du Seigneur loue son nom. Et voilà, un jour aussi, la création revivra entièrement, parce qu'elle souffre un peu en ces temps. Mais voilà, je pense qu'il y en a pas mal aussi ici qui sont sensibles à la nature et à tout ça. Et quand on voit ça, on se dit que voilà, c'est encore magnifique. Et des fois, c'est vrai qu'on doit faire attention à ce qu'on fait pour aussi préserver la nature. Et voilà, après, elle revivra un jour ou l'autre, comme elle était prévue initialement. Voilà ce que j'avais à vous partager ce matin. voilà, c'était pas forcément. Oui, ça c'est le parcours que j'ai fait, qu'on a fait avec Samuel et Mathias. Donc là, on voit Édimbourg, la capitale écossaise. Et puis voilà, après on est parti vers le haut, puis avec tous les petits crochets qu'on a fait, voilà. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai plus en détail après. Mais voilà, en tout cas, ce que je voulais partager, c'est vraiment de s'attendre au Seigneur, de s'attendre aux surprises que le Seigneur peut mettre sur notre chemin. Et vraiment, moi, j'ai été béni par ce voyage, mais voilà, reconnaître aussi, comme on a dit ce matin dans la louange, reconnaître les bénédictions que le Seigneur met sur notre chemin. Donc du coup, je vais juste peut-être appeler certains d'entre vous s'ils ont un témoignage à partager par rapport aux bénédictions qu'ils ont eues pendant ces vacances. Voilà, on est entre nous, donc ne soyez pas timides. Moi, ça a été les vacances en Écosse, mais ça peut être voilà, une toute petite chose. Donc voilà, si certains d'entre vous, comme on a le temps aussi ce matin, veulent partager une ou deux bénédictions qu'ils ont vécues pendant ces vacances, ça encouragera les autres. Voilà, ça peut être une toute petite chose. Quelqu'un vous a offert un café, voilà. Donc, si quelqu'un veut s'avancer, si quelques-uns d'entre nous veulent s'avancer, vous pouvez prendre 2 minutes pour réfléchir. Je vais remettre juste. J'en mets juste le micro pour qu'on t'entende bien. Hop.
Moi, je peux dire bonjour à tous. Je peux dire que le Seigneur est vivant parce que malgré ces temps de sécheresse, je rentrais de mon travail et puis il pleuvait là, à Sansot, tout ça. Et quand je rentrais, je disais, Seigneur, regarde les vaches derrière chez nous, elles n'ont plus d'herbe, tout ça. C'est tout jaune et ça serait bien qu'il pleuve. Et peut-être un peu de temps après, il s'est mis à pleuvoir. Le Seigneur a répondu. Donc le Seigneur, il répond même dans les petites choses. Voilà.
C'est un petit peu tout mélangé. Un témoignage et peut-être aussi une pensée que je vais peut-être mélanger tout ça. Je pensais il y a quelque temps en arrière, je me disais, oh, ça serait, comment dire, j'ai toujours eu cette envie d'avoir un four à pain. Un four à pain et à pizza aussi. Et donc, j'ai déjà des années en arrière, mais bon, je trouvais pas ce que je voulais. Enfin, puis l'autre jour, j'ai repensé à ça, tiens. Puis bien sûr, je vais voir sur notre ami Le Bon Coin. Sur Le Bon Coin, il y a tout ce qu'on chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Et je vois un four à pain. Et donc, ni une ni deux, je saute dans ma voiture et je suis allé acheter à un prix, le prix du Bon Coin, défiant toute concurrence. Et puis, donc, je me suis lancé dans des travaux. Et bon, ça, je ne veux pas vous raconter. Et pendant tout un matin, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé la maçonnerie. Et puis, donc, j'ai un peu tout perdu. Et puis on devait faire une dalle avec mon gamin qui est venu me donner un coup de main, ma femme aussi m'a aidé beaucoup. Et puis on tergiversait, on discutait, on doit faire comme si on devait faire. Puis on y a pensé un matin et tout. Et bien sûr, d'un seul coup, on mange. Et d'un seul coup, on prend enfin, le matériau qu'on avait besoin, on le prend, on le dispose. Et en fin de compte, on a fait les choses et sans même en parler, et ça s'est emboîté, et on y est. Et du coup, on a trouvé la solution. Alors qu'on avait discuté, on fait comme ci, on fait comme ça. Oh, c'était tout un pataquès, et on ne savait pas. on savait pas trop comment s'y prendre, et ça, c'est vraiment super. Et, enfin, le Seigneur vraiment nous a piloté là-dedans. Je voulais aussi accompagner. Je pense que peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui veut se lancer dans quelque chose, qui a à cœur quelque chose, mais quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et pour lui, c'est un défi. Et donc, il regarde à ce qu'il est lui. Alors, ça m'a fait penser à aux 5 pains et 3 poissons ou le contraire. Et donc, Jésus a nourri toute cette foule. C'était 5 000 ou 3 000. Et donc, vous imaginez, quand vous voyez 3 000 personnes, et donc, pour les nourrir, avec 5 pains et 3 poissons. Et donc, le Seigneur, il leur dit aux apôtres, pour nourrir ces gens, qu'est-ce que vous avez ? Eh bien, les apôtres répondent, on a 5 pains et 3 poissons. Ça ne fait pas beaucoup. Souvent dans la Bible, on retrouve cela. Allez avec ce que vous avez. Faites avec ce que vous avez. Et donc, Jésus rend grâce pour les 5 pains et 3 poissons. Nous, bien souvent, moi, bien souvent, je rendrai grâce une fois que le repas est terminé. Tout le monde a été nourri. « Oh Seigneur, t'es grand, merci, parce que t'as nourri tout le monde. » Mais Jésus, lui, il dit « Merci Seigneur, quand il a 3 pains et 5 poissons pour 5 000 personnes. » Rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Et fais confiance à Dieu pour ce que tu veux faire, là où tu veux aller, le défi qui est devant toi. Dieu, mets-toi en route. Voilà.
Pas trop confus ? D'autres encore, peut-être ?
Quelque chose qui est un peu plus ancien, mais... Tout à l'heure, tu as parlé, je ne suis pas une ruine. Et quand on se trompe, quand on fait des erreurs, quand on s'éloigne du Seigneur, ce qui a été mon cas pendant 14 ans, souvent on se dit, on a l'adversaire qui nous dit, t'as vu, t'es bon à rien, tu ne seras jamais capable de faire quelque chose. Mais on a le bon berger qui est là, qui veille. Puis un jour, il nous ramène, comme ce berger qui a été chercher ses brebis, c'est ce qu'il a fait pour moi. J'avais été marié une première fois, le Seigneur m'avait tout donné. Je sais où il est venu me chercher, pas rentrer là-dedans. Donné une première femme, un premier fils que je n'ai pas élevé, j'ai rien compris au film. Et puis, quand j'ai demandé pardon à Dieu, le bon berger m'a récupéré, j'ai demandé une deuxième chance. Et cette deuxième chance, elle est là, aujourd'hui. Et ce deuxième fils, ben, il n'est pas là, mais il va venir tout à l'heure, ne te cache pas derrière le pilier. Voilà. Mais Dieu a répondu exactement, donc il n'y a jamais rien de perdu avec le Seigneur. Quand il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient vers moi ou celui qui revient, c'est vrai. Donc il n'y a jamais rien d'impossible à Dieu. Toutes choses sont possibles. Et quand on va vers lui, quand on va vers le bon berger, c'est comme quand on retourne vers le fils prodigue, retourne vers son père, il nous accueille à bras ouverts. Il ne nous met pas dehors. C'est ce que je voulais vous partager. Quelle que soit votre situation, ne perdez jamais espoir. Parce que le bon berger, la porte est toujours ouverte. La porte de la bergerie. Amen.
Je veux couper la parole à personne. Hein, parce que c'est l'été, on a le temps. C'est donc si quelqu'un a encore témoignage, voilà. N'hésitez pas. Sinon, on va passer à la suite. Il n'y aura pas de Sainte-Seine ce matin. Donc, on va passer directement aux annonces. Est-ce que certains d'entre vous ont prévu de rester manger ici? Peut-être on peut lever la main. D'accord. Donc, nous, si jamais on a prévu un peu plus, donc voilà. On va être quelques-uns à rester, donc n'hésitez pas à vous joindre si besoin. Autre chose, j'ai une annonce de Réjeanne, donc je vais la laisser venir.
Ça fait plaisir de voir que je suis une chance. Merci. Il m'a eu là. Enfin, c'est juste, voilà, il y a Sylvain qui m'a appelé cette semaine. Ben, il m'a dit de prendre le micro, alors je prends le micro. Pour juste vous dire un grand bonjour de sa part. Sylvain et Monique qui vont bien, voilà. Ah, voilà. Je transmets un grand bonjour de la part de Sylvain et Monique.
Voilà, voilà, c'était juste ça, l'annonce très importante. autre chose, donc le dimanche 26 août, donc pas celui qui vient, mais celui d'après. N'oubliez pas qu'il n'y aura pas de culte ici, il est à Fontainebru. Donc, si vous avez besoin de connaître la route, vous pouvez venir me voir, moi. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, ne venez pas ici, vous serez tout seul. Il vaut mieux être ensemble. Pour le dimanche 26 août, voilà, venez nombreux, ça va être sympa. On va manger dans le jardin, je pense qu'on fera le culte en plein air aussi. Donc voilà, c'est toujours un moment sympathique. Avec la possibilité d'aller au lac après, à Den, juste à côté. Donc voilà, autrement, je ne sais pas si quelqu'un a une autre annonce spéciale à faire. Jackie, toi de ton côté, c'est bon. Par rapport à la boîte, je ne vais pas la faire circuler pour vos offrandes et vos dons. Elle est là, vous savez qu'elle est là. Si vous avez prévu de mettre quelque chose dedans, passer à la fin du culte pour mettre ce que vous avez prévu. Par contre, je ne la ferai pas passer. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche à tous. Et puis, une bonne journée et une bonne continuation de votre temps d'été. Voilà.